l'initiative locale avec Charles Duplessis sur Radio Alpa.
Un aller-retour sur le GR20 de Corse en seulement 6 jours et en pleine canicule. C'est l'exploit accompli par Nicolas Bonneau et Maxime Coallier pour l'association CIM, un défi sportif pour rendre visible le handicap invisible. Alors souvenez-vous, nous avions reçu Nicolas Bonneau dans Sport en Sarthe, c'était le 12 juin, peu avant son départ. On fait donc le bilan de cette aventure avec Nicolas Bonneau de nouveau avec nous, mais aussi avec Anthony Archenault, fondateur de l'association CIM. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors d'abord, Anthony Archenault, est-ce qu'on peut rappeler peut-être l'origine de ce projet commun et pourquoi cette action en fait entre un ultra trailer et l'association CIM ?
Alors avant d'être une association d'un ultra-trailer et l'association CIM, c'est avant tout l'association de deux êtres humains qui se connaissent depuis le lycée, parce que ça part d'une très très vieille amitié. Après, notre association a pour habitude d'utiliser le sport comme un vecteur de communication pour rendre visible le handicap invisible. Ça a toujours été dans notre ADN. Alors quand Nicolas est venu me proposer un projet fou il y a 2 ans et quelques en me disant « je ferais bien l'aller-retour du GR20 en 6 jours », je lui ai d'abord répondu que c'était pas possible humainement. Donc je lui ai dit « ça m'étonnerait que… »
Ah oui, carrément.
Carrément. Ça me paraissait pas une performance réalisable par l'homme. Il m'a dit « si, t'inquiète ». Donc j'ai dit « bah écoute, s'il faut y aller, on y va ». Moi, je suis une association, effectivement, je savais que si ça se faisait, là, du coup, le handicap invisible allait être très visibilisé et qu'il y allait avoir de l'écho. On s'est fait confiance, on a préparé tout ça et on a vécu, ma foi, une très très belle aventure.
Est-ce qu'on peut rappeler aussi quand même donc cette association CIM, comment elle fonctionne, par quelle action elle passe quotidiennement ?
Alors, en fait, on a 2 axes principaux. Le premier des axes, c'est d'accompagner le douloureux qui est en errance médicale sur notre territoire et dans son parcours médical. C'est-à-dire qu'en fait, on a une 20aine de spécialités différentes avec une équipe pluridisciplinaire qui reçoit les douloureux chroniques avec un tarif préférentiel et l'obligation de les recevoir dans un rendez-vous à 72 heures. Donc on a psychologue, mésothérapeute, cryothérapie, enfin on a une 20aine de spécialités différentes pour aider les douloureux à vivre leur douleur. Ça c'est notre premier axe. Et puis notre second, c'est une bataille qu'on a engagée dès la création de l'association, c'est se battre pour la reconnaissance du handicap invisible qui représente 82% du handicap français, hein, sclérose en plaques, spondylarthrite, fibromyalgie, syndrome d'Ehlers dans l'eau, je pourrais vous en citer comme ça pendant des heures.
Oui, c'est vrai qu'on se demande qu'est-ce que ça représente en fait le handicap invisible, qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, c'est toutes les maladies que je viens de vous citer. Vous avez dans vos familles des gens qui souffrent de sclérose en plaques ou de spondylarthrite ou de polyarthrite ou des gens qui ont la fibromyalgie. Quand vous les regardez, ou des gens comme moi, hein, 3 os en moins dans la colonne vertébrale et des décharges électriques dans les jambes 24 heures sur 24. Quand vous me regardez, vous dites quel beau jeune homme de 52 ans. À l'intérieur, la machine fait beaucoup de bruit, le sommeil est pas présent, la douleur, elle est 24 heures sur 24 et la vie est compliquée. On est handicapé, on est invalidé et on va recevoir dans ces pathologies-là une double peine, c'est que le regard social on n'est pas d'extérieur handicapé. Quand tu fais la queue à la FNAC au 25 décembre et tu sors ta carte parce que la station debout est pénible, eh bien le regard d'autrui est plus compliqué à digérer, on a moins d'empathie naturelle, hein, ce qui paraît normal puisqu'on est d'extérieur tout à fait dans la norme. Voilà, donc c'est une double peine, le handicap invisible et il est important de le rappeler, c'est 82% du handicap, c'est-à-dire que plus de 8 handicapés sur 10 souffrent de handicap invisible.
Oui, donc aux douleurs quotidiennes s'ajoutent des difficultés sociales par-dessus. En fait.
C'est ça, difficultés sociales, et un autre paramètre c'est la difficulté financière, parce que souvent les assurances de prêt, c'est un autre sujet, mais les assurances de prêt et les aides financières accordées aux personnes handicapées dites de catégorie 3, donc moteur, ne sont pas données aux handicaps invisibles. Donc c'est souvent des triples peines et des gens qui sont un peu isolé, la solitude elle frappe énormément ces gens-là. Donc voilà, j'en avais été témoin il y a 13 ans quand je suis tombé malade et ça me paraissait bien de faire part de mon expérience pour pouvoir casser la solitude de ce handicap.
Et donc pour revenir donc sur ce projet mené conjointement avec Nicolas Bonneau et Maxime Coallier, donc on le rappelle, votre défi consistait à faire un aller-retour sur le GR20 de Corse, 380 km et plus de 26 000 mètres de dénivelé. L'objectif c'était d'y parvenir en moins de 7 jours. Et vous avez réussi avec un jour d'avance. Alors racontez-nous, Nicolas Bonneau, comment ça s'est passé ?
Déjà, ça s'est bien passé puisqu'on a atteint l'objectif. On était parti dans l'idée de le faire en 7 jours parce que ça me paraissait quelque chose de, d'ambitieux mais de réalisable.
Ce qui n'était pas le cas d'Anthony Archenault, qui pensait que c'était irréalisable. Vous avez fait mieux que prévu.
J'ai fait mieux que ce qu'il pensait, ça c'est sûr. Après, c'est sûr que le GR20, c'est un des chemins de randonnée les plus durs d'Europe, voire le plus dur d'Europe. Et des allers-retours, il n'y a pas beaucoup qui s'y sont frottés. Moi, ça me paraissait quelque chose de faisable. Sur les premières parties, on s'est bien senti avec Maxime et on a essayé d'aller le plus vite possible sur l'allée. Donc c'est pour ça qu'on a été taper la plaque de Calenzana dans le Nord en moins de 3 jours. Ce qui nous laissait un petit delta pour le retour pour pouvoir un peu faire face à la fatigue et au sommeil.
Oui, parce que la difficulté en plus, c'est que vous avez dû faire votre périple en pleine canicule. Quelle température est-ce que vous avez eu en Corse ? Ça a été une épreuve de plus, j'imagine.
On a une alternance de très chaud. Donc là, effectivement, ça réduit forcément notre vitesse de déplacement. Après, on a quand même eu de la chance que sur cette période de très très chaud, on a seulement eu un seul orage. Alors qu'on aurait pu en avoir plus sur les 6 jours. Et puis, étant en haute montagne par moment, il y avait quand même un vent assez frais de temps en temps. Comme disait Max, ils ont sorti le ventilateur. Donc ça nous a permis aussi d'avancer un peu plus vite par moment.
Oui, parce que l'orage, je me souviens, c'était aussi une des grosses craintes que vous aviez avant de partir. Donc vous n'avez pas été totalement épargné quand même. Vous en avez eu un.
Ouais, on en a eu un.
Pas au meilleur moment, si j'ai bien compris.
J'avais dit à Anthony que les deux choses qui pouvaient nous retarder, c'était soit la blessure, soit les orages. On a pris l'orage dans un endroit qui s'appelle la Pointe des Éboulis, qui est, je dirais, au plus mauvais moment qui pouvait arriver. Donc du coup, pendant 1 heure, on a été obligé de se cacher sous un rocher avec une couverture de survie pour laisser passer la grêle, l'orage. Et puis après, une fois que la grêle est passée, on s'est remis en mouvement parce qu'on commençait à avoir froid. On a marché pendant plus d'une demi-heure avec une couverture de survie sur les épaules.
Et parce qu'il y avait un vrai danger à continuer pendant l'orage.
Ouais, il y avait un vrai danger parce que c'est une zone très minérale, donc du coup, fallait pas qu'on prenne vraiment les éclairs sur nous. Donc en haute montagne, quand il y a des orages, il faut s'abriter. C'est la première chose à faire et après voir ce qui se passe.
Donc Nicolas Bonneau, vous êtes un habitué des ultra trails. Malgré tout, cette épreuve-là, elle a quand même été difficile pour vous.
Oui, elle a été difficile parce que même si je suis habitué à faire des 100 miles, c'est des courses qui vont durer, on va dire, au maximum 35-40 heures. Là, du coup, on a dépassé nos limites, que ce soit moi ou Max, parce que Max avait fait déjà 200 km, un petit peu plus de 200 km, mais en Sarthe. Donc, vous imaginez bien que c'est pas la même chose. On est sorti de notre zone de confort. On a découvert des... Voilà, je pense qu'on a été chercher d'autres éléments en nous pour pouvoir faire face à tout ce qui nous est arrivé.
C'est dangereux aussi, là, certains. Il y a des hérissons, on peut mettre le pied dessus, on ne sait pas ce qui peut arriver.
On est d'accord.
La motivation, elle est restée là jusqu'au bout ou bien vous avez cru peut-être abandonner à un moment donné?
Quand Anthony nous a demandé, nous a dit, vous savez les gars, si vraiment c'est chaud ou tout... faites attention et puis c'est pas grave. Et Maxime, la première chose qu'il lui a dit, de toute façon, ouvre pas de porte comme ça parce qu'il n'y en aura pas. Donc voilà, oui, c'était l'abandon. L'abandon était pas possible.
Et donc vous êtes parvenu à réaliser cet exploit avec Maxime Coallier. Qu'est-ce qui vous a permis de tenir justement ? Qu'est-ce qui vous a permis de maintenir cette détermination sans faille ?
Je dirais qu'il y a 2 éléments principaux. Le premier, c'est l'union qu'on a eue avec Maxime, où on s'est soutenu tout le temps quand un allait moins bien, l'autre allait mieux et inversement. Donc on a eu une forme de bienveillance. Et puis surtout, on a eu 12 personnes autour de nous, une équipe vraiment formidable, qui nous a vraiment soutenus, a fait part de bienveillance, nous ont dorloté, nous ont déchargé mentalement de tout ce qu'il y avait à faire. Et nous, on avait juste à mettre un pied devant l'autre et avancer.
Et vous étiez là, Anthony Archenault, parmi ces 12 personnes, vous les suiviez de loin, comment est-ce que vous suiviez un peu leur parcours ?
Alors, il y avait 2 équipes différentes. Moi, j'ai participé à quelques assistances, mais ce n'était pas mon rôle. Moi, mon rôle, il était d'emmener le douloureux chronique sur le GR20 pour croiser Nicolas en haut de la montagne, parce que c'était l'objectif qu'on s'était donné. J'ai fait 2 étapes pour pouvoir aller le rejoindre, j'ai réussi. Je me suis reposé 2 jours là-bas parce que la santé ne pouvait pas faire autrement. Donc moi, j'ai passé 2 jours allongé pendant que lui passait 2 jours à courir. Et puis le reste du temps, ouais, on a été dans les voitures, on a été sur les points d'assistance, rejoindre Franck, Adrien, Christophe, Matt le kiné, parce que l'aventure humaine était incroyable à vivre.
Et alors, qu'est-ce que vous avez ressenti l'un et l'autre quand vous avez réalisé que le défi était gagné ?
Je pense que je l'ai réalisé le samedi matin avec... Alors déjà, j'ai pleuré. Je dois le dire, j'ai pleuré un certain nombre de fois pendant ces jours.
Le samedi matin, c'était le lendemain matin, du coup
Non, le matin.
Où
le matin avant qu'on arrive. Avant qu'on arrive.
Ils sont arrivés à 17h. Le matin, j'ai pleuré parce que je. Voilà, alors le matin très tôt, je dors peu. Donc, on suivait la balise et on savait que ça passait. Et je savais qu'il n'y avait plus rien qui pouvait les freiner pour l'arrivée. Donc, j'ai pleuré parce que c'était quelque chose qui me paraissait vraiment impossible parce que j'avais parcouru jeune ce GR. Je dis toujours à Nico, je me rends compte de la performance sportive. Je sais ce que c'est que. Voilà, j'ai vu mon copain là-haut dans la montagne dans des étapes psychologiques et physiques comme je ne l'avais jamais vu et l'émotion elle était forte parce qu'il méritait, cette arrivée parce que des résiliences comme celle-là j'en ai peu vu dans ma vie. Et avant de partir, il avait dit les douloureux ne choisissent pas de souffrir et les sportifs choisissent de souffrir. Et à l'arrivée, j'ai inversé le schéma. Je lui ai dit, moi, je n'ai pas d'autre choix que de souffrir. Et je ne suis pas sûr que si j'étais en bonne santé, je serais capable d'aller souffrir autant pour d'autres personnes et pour une cause. Voilà, c'est ce que j'ai vu de mes yeux pendant cette course.
Et donc finalement, est-ce que vous estimez que l'opération est réussie, qu'elle a permis de rendre visible le handicap invisible ?
Bah, la preuve, on est dans vos studios, la couverture médiatique après, elle est colossale. Et c'est la première fois.
Vous êtes passé par d'autres médias aussi. Avant.
Voilà. Il y a des amis de Nicolas qui sont venus l'aider à faire la performance, que sont Émilie et Philippe qui sont dans le Nord avec leur fille. Le handicap invisible, on en a parlé dans le Nord. L'île de Corse a explosé dans sa connaissance du handicap invisible après le rallye. En fait, ils nous ont vu arriver un peu comme des touristes. Et je suis pas sûr qu'ils croyaient vraiment à la performance à l'origine. Quand ils ont vu Max et Nico arriver avec 4 heures d'avance sur l'allée, l'île elle a carrément explosé. En bas, dans les magasins, avec nos t-shirts, on nous parlait des deux fous qui étaient en train de courir l'aller-retour. On n'entendait plus parler que de ça. On pouvait plus se déplacer dans l'île. Et c'est vrai, même quand on était à 200 bornes d'eux, les gens nous parlaient du handicap invisible. Donc voilà, on en a parlé fort en Corse. Et à notre retour, on en a parlé fort en Sarthe parce que nos médias locaux sont très habitués à relayer nos actions. Et je remercie l'intégralité des médias de ce département parce qu'on a besoin de vous pour que ces causes-là fonctionnent. Et oui, on savait que s'il réussissait cet exploit incroyable, hein, c'est la deuxième trace GPS dans le monde de cette aller-retour du GR20, on savait que ça allait porter ses fruits. Aujourd'hui, on a des médias nationaux qui s'intéressent à leur exploit, donc c'est une mission réussie à 1000%. Ouais, 1000%.
Est-ce que vous envisagez donc de nouvelles actions ensemble à l'avenir ?
Oula !
Peut-être se remettre d'abord, peut-être.
Oui, il faut s'en remettre. Après, c'est vrai que moi, à titre personnel, je me suis préparé sportivement et d'un point de vue logistique pendant près de 2 ans pour cette aventure. Mais mon côté ultra-trailer fait qu'une fois que je serai reposé, il faudra trouver autre chose.
Et d'ailleurs, est-ce que vous envisagez peut-être de revenir sur le GR20, parce que Anthony Archaudot le disait, vous êtes les deuxièmes à réussir cet aller-retour. L'autre, du coup, si je ne me trompe pas, c'est Grégory Camerlo qui a le record détenu avec un aller-retour en moins de 5 jours, donc avec un jour de moins que vous. C'est très impressionnant. Est-ce que ça vous fait envie d'essayer de battre ce record-là ou...
Alors, ça ne me fait pas du tout envie.
Pas du tout.
Pas du tout, parce que je sais le niveau que j'ai. Je sais le niveau des élites français en ultra-trail. Je sais aussi que c'est quelqu'un qui doit avoir au moins 20 ans de moins que moi. Ça, ouais, c'est aussi un élément.
Aussi, ouais.
Mais en fait, pour revenir à ça, c'est vrai que l'objectif, c'était pas de battre un record, parce que déjà d'une, on n'en a pas les capacités physiques et athlétiques, nous. L'objectif, c'était vraiment de relayer l'association d'Anthony et de faire un exploit à notre niveau, à nous. Et je pense que l'exploit, il a été fait, bien fait. Voilà. Après, les records, bah, je les laisse pour les sportifs de très haut niveau et c'est pas mon cas.
Ça se discute.
Ouais,
Je vous remercie Nicolas Bonneau et encore félicitations pour votre parcours sur le GR20 de Corse avec Maxime Coallier. Et merci à vous également Anthony Archenot, fondateur de l'association CIM. Merci beaucoup.
Merci.
L'initiative locale avec Charles Duplaise sur Radio Alpa.